sous la forme d'une actualisation de la norme sociale moderniste, alors que de l'autre, d'autre côté, il y aurait un souci davantage de ce qu'on peut appeler une certaine complémentarité ou une certaine plénitude. S'il se trouve, c'est plus fantasmatique que réel, mais je dis ce qui existe. Hein. Ça me conduit à deux dernières questions, s'il vous plaît. Première question, c'est est-ce que les traits de chaque mentalité qu'on vient de caractériser s'organisent en système cohérent? Je viens de définir cinq aspects, cinq traits. Est-ce que ça s'organise pour définir des personnalités collectives différentes? Je n'en sais rien. Six points. La question, c'est que je n'ai pas assez réfléchi, il n'y a pas d'études, il est temps que des études se fassent peut-être. Est-ce que ça s'organise? Est-ce que ce sont des traits épars, dispersés, qui ne forment pas une véritable personnalité de base ashkénaze ou séfarade? Ou est-ce que c'est un système cohérent qui détermine donc deux personnalités consistantes? Je ne sais pas. La deuxième question, est-ce que, elle a été posée je crois aussi dans la brochure, est-ce que la modernité va déferler sur tout ça et va rendre caduque ces deux concepts, ces deux catégories? Moi, je dirais deux choses. La modernité telle qu'elle s'est imposée à nous depuis à peu près un siècle commence à trouver ses limites. Je l'ai vérifié dans un livre pas très ancien, récent, sur la vie affective et la sexualité chez les jeunes. Il semble bien, dans les dernières études que j'ai faites, un dernier livre qui est paru il y a 2 ans, montre bien que la norme, si vous voulez, la morale de la libération sexuelle, le féminisme agressif, tel qu'on l'a connu aux années 70, le schéma de l'interchangeabilité des rôles, tout ce qu'on a mis sous le signe de l'évolution et de la modernité sont en train de reculer. Dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, on assiste au reflux des grandes idéologies transnationales, à voir la télévision tous les soirs. Le reflux des grandes idéologies, des grands modèles de croissance économique, des grands systèmes de pensée. Il n'y a plus de maître à penser, tout le monde le dit aujourd'hui, tout le monde l'écrit, sauf ceux qui sont autour de cette table. Au réveil des nationalismes, à des micro-schémas de développement local, et puis au retour de certaines orthodoxies ou de certaines traditions. Dans tous les domaines, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la pensée, ça ne nous incite pas à penser qu'il va y avoir une submersion, que la modernité va tout submerger, et va donc faire disparaître la bifurcation séfarade-ashkénaze. D'abord, est-ce souhaitable d'ailleurs? Est-ce souhaitable? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire s'en servir comme levier pour le développement général de la culture juive? Alors, est-ce qu'il y a un dépassement? Et je vais terminer là. Est-ce qu'il y a dépassement ou pas dépassement? Et s'il y a dépassement, quelles sont les voies de ce dépassement, de cette dichotomie? Je crois qu'il y a trois voies possibles. Il y a une première voie, elle est empruntée par un certain nombre de gens aujourd'hui, c'est la voie orthodoxe. La voie orthodoxe qui est considérée comme le retour aux sources du judaïsme, donc comme une remontée du cours de l'histoire et comme une annulation de cette division, c'est séfarade-ashkénaze. Bien, c'est une voie possible. Il y a une deuxième voie possible qui est le contraire, qui est la laïcité, et qui consiste à dire, ben, je ne parle pas d'une laïcité militante, il s'agit d'une laïcité qui consiste à dire, l'essentiel des valeurs juives, sont des valeurs humanistes. Et ces valeurs humanistes et universalistes, qui constituent la meilleure part de l'héritage juif, eh bien on peut les retrouver, on peut les généraliser, et ça correspond à des valeurs cardinales de notre civilisation. Et cette démarche-là efface la dichotomie à séfarade-ashkénaze. Je pense que dans les deux cas, il y a une mutilation de l'héritage complet, global, du judaïsme et de l'immense expérience du peuple juif. Immense. Donc, il reste une troisième voie. Vous avez bien compris, celle que je préconise. Il reste une troisième voie. C'est la voie une voie problématique, en fait. Une voie problématique. Et le problème, c'est d'essayer de comprendre les interférences entre les deux grandes cultures, entre les folklores, entre les productions littéraires, artistiques, symboliques. C'est d'essayer de comprendre les articulations entre les deux séries d'apports culturels, les uns aux autres, sans remettre en question les dynamiques séparées des deux cultures. Le problème n'est pas de dépasser, mais de dérigidifier les mentalités et les modalités à travers lesquelles elles s'expriment. De sorte, vous allez dire, mais pourquoi ? De sorte que les nouvelles générations se socialisent dans un bain culturel beaucoup plus large que le nôtre. Le problème est là. Dans quoi on va socialiser les nouvelles générations ? Est-ce qu'on va les socialiser dans un univers culturel étriqué ou dans un univers culturel plus large ? Alors, le problème, je pense qu'il est là. Cela n'a rien à voir, c'est mon dernier mot, cela n'a rien à voir avec les tentatives de socialisation auxquelles il nous a été ordonné de penser, de regarder, d'examiner, qui consiste à socialiser de jeunes juifs maghrébins dans une culture qui n'est pas la leur, et dans des formes d'orthodoxie qui ne sont pas les leurs. Je pense que ça a créé des dégâts au sein des familles, il faudrait y réfléchir suffisamment pour pouvoir réussir cette chance historique exceptionnelle de la rencontre qui s'est réalisée en France et en Israël. Je vous remercie.
Et après cette brillante leçon de prudence, d'abord, de prudence méthodologique, de rigueur scientifique de Monsieur Claude Tapia, je voudrais donner d'abord la parole à M. Léon Ashkenazi et après par la suite à la salle pour les questions sur la conférence.
Oui, merci d'abord pour dire que je remercie vraiment très sincèrement et M. Tapia et M. Ayoun de tous les renseignements qu'ils nous ont donnés. Ça m'a fait comprendre que ce sujet à lui seul aurait pu être le sujet du séminaire tout entier. Vous avez dû d'ailleurs le ressentir à chaque allusion à tel ou tel moment du problème. C'était déjà un monde de questions et nous n'aurons le temps que d'en mettre en évidence quelques-unes. Je voudrais me borner en introduction à ce débat à dire quelques réflexions. D'abord, un premier étonnement que j'ai eu, qui ne m'a pas quitté, mais que j'ai eu dès le début avec l'exposé de Richard Ayoun. Comment se fait-il que pour deux... Alors, peu importe le vocabulaire, il n'est ni les concepts que je vais employer, ni philosophique, ni théologique, ni sociologique, ni psychologique, ni tout ça à la fois. Comment se fait-il que pour deux identités aussi campées, on en soit réduit à des hypothèses concernant et l'origine historique et le profil de, il faut dire, plusieurs choses à la fois, et culturelles, et sociales, et nationales, et tribales, et communautaires. C'est extrêmement impressionnant. Et peut-être que tout à l'heure, en conclusion, je reprendrai un peu certaines de ces hypothèses, mais je voulais poser ça d'abord comme question de méthode, et ça me fait prendre un peu la distance entre la réflexion, disons, je vais employer un vocabulaire un peu schématique, disons rabbinique sur ce sujet, pas dire traditionnel, mais vraiment rabbinique, qui se base sur une mémoire d'identité, et d'autre part, la réflexion méthodologique scientifique, et qui au fond aboutit à des questions très pertinentes, mais sous forme hypothétique. Il y avait une espèce de jeu intellectuel qui m'a séduit, qui transforme la mémoire en hypothèse et qui fait passer les hypothèses pour des certitudes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Là, il y a un problème qui concerne, je pense, toutes les sociétés humaines, peut-être, mais peut-être centralement les Juifs. D'où ça vient ? C'est une première question.
D'autres ? Vous pouvez la reformuler encore.
Ah bon, j'ai oublié. Je veux dire, voilà, nous sommes un peuple qui, au bout d'une période de 2000 ans, sur les 4000 ans de notre histoire, au bout de 2000 ans, nous sommes confrontés à des événements de bouleversements géographiques, historiques, considérables dans notre temps, et que nous posons la question de nos origines, et au niveau historique, et au niveau communauté nationale, communauté religieuse, communauté sociale. Et voilà que, tout en étant convaincus de notre existence, nous ne sommes pas des personnages de romans juifs, nous sommes des existants, voilà que dès que nous commençons à réfléchir, nous sommes renvoyés à des hypothèses. On ne sait même pas quelle est l'origine des Ashkenazim ou l'origine des Sephardim, il y a quatre hypothèses d'historiens. C'est énorme. Okay. Et puis, etc. C'est ce que je voulais dire. Alors, je voulais indiquer qu'il y a là un mystère, semble-t-il. En tout cas, du point de vue de la méthodologie des savants, scientifiques, ou dites scientifiques. C'est pourquoi j'en parlais, et c'est un peu plus clair.
Oui.
C'est pourquoi j'en parlais du point de vue de la mémoire rabbinique. Je dis rabbinique parce qu'il s'agit de la mémoire traditionnelle, mais les rabbins étudient cela quand ils ont longtemps. C'est pas ça qu'ils s'occupent. Ça me rappelle une petite anecdote, mais très importante, et je reviens au sujet. Et je poserai ma première question sur les origines. Comment se fait-il qu'on ait résolu à des hypothèses? Et des hypothèses qui, chaque fois qu'elles sont décrites, apparaissent chacune d'entre elles comme cohérentes, mais un faisceau d'hypothèses pareilles, c'est le balagan absolu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il s'agit... Attends, d'abord, qu'est-ce que c'est le balagan? Je traduis. C'est un mot que nous avons emprunté de nos voyages en Turquie, enfin de nos exils de Turquie. C'est un mot turc qui signifie pagaille en français. C'est français, pagaille? Moi? Oui. En général, c'est bien. D'accord. Non, ça commence quand le premier homme est rentré au jardin, où balagan, le balagan a commencé. Mais ça, c'est l'hébreu. Alors, en tout cas, pour revenir à l'histoire, c'est une histoire authentique, mais vraie, qu'on raconte du Malbim, qui était un très grand exégète de l'Ashkenazim du siècle dernier. Autant où la Haskala commence, et où les instituts d'hébreu s'installent dans les communautés traditionnelles, et vous savez ce que la Haskala, l'intelligentsia, le laïcisme juif qui a commencé après le siècle des Lumières en Europe centrale, il avait comme ami un masquille, professeur d'hébreu, qui était un rabbin Malbim. Et un jour, cet ami lui dit, que je suis très étonné, « Comment se fait-il que vous, les rabbins, me connaissiez d'hébreu ?» Quelle histoire juive, hein, mais une histoire de professeur d'hébreu. Comment se fait-il que nous, on étudie, nous avons des instituts, des universités, il faut passer des examens, des doctorats, et vous, les rabbins, vous occupez d'autre chose, et en plus, vous savez l'hébreu. Alors... Le Malbim lui a répondu, je vais te poser une question puisque tu es professeur d'hébreu. Il y a un verset des proverbes qui nous pose un problème d'exégèse. C'est dans le Eshet Chayil, le chapitre de la femme vertueuse qu'on lit le vendredi soir. Sadin asta batimko vahagor natna la kenaami. Ce verset veut dire, on parle de la femme vertueuse, elle a tissé un châle ou un drap si vous voulez, et elle l'a vendu, et la ceinture elle a donné au marchand. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le professeur d'hébreu réfléchit, je ne sais pas, toi, explique-moi. Alors il dit, voilà, je vais te raconter une histoire. Il y avait dans une petite bourgade, la première fois qu'on a installé des magasins à prix unique. Maintenant, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici, j'ai oublié. Super Sol, Super Sale, Super... Si on est pas radou Ashkenaz. Alors, quelqu'un du village est allé dans la ville. Il a découvert ce magasin à prix unique, c'était merveilleux, il rentre, il se balade, il a un musée du commerce, et il s'aperçoit qu'en sortant, on donnait des beaux sacs, des sakiotes, okay, aux gens pour mettre leurs marchandises. Il a réfléchi, il a dit, ici on vend des sacs pour rien, je vais acheter des sacs pour rien, je rentre à mon village et je vends des sacs pour gagner ma vie. Il va, il choisit des sacs comme ça, des sacs comme ça, des sacs comme ça, et il veut s'en aller, il dit, ça fait tant. Je comprends pas, vous donnez pas des sacs pour rien. On a dit, si tu prends la marchandise, on te donne l'emballage en plus. Mais si tu vas acheter que de l'emballage, paye l'emballage. Vous avez compris? Alors, c'était ça le verset de Michelet. C'est-à-dire le châle qu'elle a tissé, elle le vend. Maintenant, la ficelle avec laquelle on tient ça, elle le donne au marchand. On a dit, voilà, tu comprends que nous, les rabbins, on connaît l'hébreu, c'est un mystère, mais on connaît l'hébreu en plus. Ben, c'est un peu notre problème. Nous avons en plus une mémoire juive. Ça existe. Alors, vous comprenez ce que je voulais dire. Et alors, message est posé sous forme de question. C'est vraiment un mystère. Et une remarque. Vous avez surtout parlé, et je pense que c'est pas seulement par méthode, c'est le sujet qui vous y mène, surtout parler du temps contemporain. Et mettant en évidence que se cristallisent ces deux identités, Sfarad Ashkenaz, dans toutes les dimensions que vous avez décrites, dans les événements contemporains, mais très contemporains. Mais ça fait des siècles que ces deux existences sont parallèles, entrecroisées, affrontées à des affrontements, et c'est pas seulement depuis l'État d'Israël ou depuis le consistoire. Bref. Mais en particulier, je ne donnerai qu'une indication que Richard mettra les accents, c'est que nous avons déjà, depuis le Moyen-Âge, des takanotes concernant les mariages entre chevaliers et sparades. Et ça veut dire que c'est dans la législation même que c'était désacrié, vous connaissez ça. Ne serait-ce que l'Artuba de Castille, et encore en sphère entre eux.
Okay. Je ne sais pas si ça n'existait pas, je dis qu'il y a des banques rationnelles.
Ah oui, non, ça existait. Oui, non, j'ai compris que ça veut dire opérationnel. Demandez à la belle-mère quand elle avait un gendre ashkénaze, ou l'inverse. Et en ce temps-là. Et c'était entre sparadis monstrueux, surtout que notre mémoire familière. Et je vous raconte une petite anecdote. Après la guerre, je m'occupais un peu de la jeunesse juive en France, enfin un peu beaucoup quand même. Et alors, le grand rabbin de Strasbourg m'a proposé de travailler à Strasbourg. Et je vous dis des choses authentiques mais vraies. Je l'ai regardé. Strasbourg. Vous voyez un peu la sociologie de Strasbourg immédiatement après la guerre mondiale. Alors je dis, mais monsieur le rabbin, je suis sparade et ma femme est polonaise. Et vous voulez que je sois rabbin à Strasbourg? Je dis, vous avez raison. Et c'était très cristallisé. Maintenant, tout a changé. Mais en 40 ans, c'est un autre monde de distribution. Je n'ai pas dit qu'il échappait belle, mais enfin, comme point. J'ai l'impression qu'on est conduit à prendre conscience que quelque chose s'est passé qui renvoie 2000 ans d'histoire, et l'on dira 16 siècles, 14 siècles, 13 siècles, à la préhistoire, d'un coup. Mais comme nous sommes encore d'une génération dont cette préhistoire était l'histoire, ne serait-ce que l'histoire de notre jeunesse, alors ça nous pose quand même des problèmes de réflexion. Vous me direz donc, sur le point suivant, j'ai eu l'impression que vous avez surtout parlé, et d'ailleurs de façon très pertinente, j'ai beaucoup appris, de populations d'origine, je dis bien d'origine ashkénaze et d'origine sparade, en voie de déjudaïsation, beaucoup plus que des communautés sparades et ashkénazes escalitées, d'une part. Et donc, c'est un regard de sociologue, de psychosociologue français, mais au courant parce que juif, au courant de ce dont il parle. Et puis, je noterai ceci, c'est que il y a une chose qui m'a frappé, entre autres, mais j'aimerais bien qu'on en parle, mais pas parler de la musique. Il y a une telle différence entre la musique ashkénaze et la musique sfarade, les musiques ashkénazes et les musiques sfarades. Est-ce qu'il n'y a pas là derrière quelque chose qui est révélateur? Pas le fait qu'on n'avait pas parlé, mais je veux dire de la différence des musiques. Enfin, c'était quelques petits coups de projecteur sur un problème dont je remercie de l'éclairage que vous avez situé sur l'ampleur du problème. Vous avez la parole.
Oui, s'il vous plaît.
Pas du tout. Il y a 20 ans, j'avais vu une émission de Pierre Desgros que vous avez interviewé.
Pierre Desgros?
Oui, ah bon. Sur les Juifs.
C'est bon.
Et on vous avait posé la question de l'identité juive, et vous aviez répondu qu'en Israël, l'identité israélienne, ce que n'a pas dit M. Tapia, allait permettre de résoudre le problème des Ashkénazes qui véhiculent la pensée de l'Occident, avec le problème séfarade qui véhicule la pensée de l'islam, et que les deux ensemble, par la solution qu'ils apporteraient, donneraient une solution au monde qui était divisé comme ça.
Ben, tu as une excellente mémoire. Je me rappelle du contenu de ce que je dis. Des groves, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, on y retourne.
Des groves, c'est accessoire.
Oui,
d'accord. Non, je ne me rappelle pas.
Attends, attends. Non, mais avant que tu termines, je veux dire, ça se réfère au dernier point de M. Tapia. Mais j'aimerais bien qu'on intervienne d'abord sur l'exposé et l'analyse. Parce que là, c'est sur une des deux questions de la fin. Je vais vous proposer aussi d'y revenir. Quel sera le dépassement et quel serait le point de vue, disons, d'une identité israélienne, d'une conscience israélienne. Mais pour le moment, je proposerai qu'on s'en tienne à la cohérence de l'analyse en France. Parce que j'essaierai de dire tout à l'heure à quel point c'est différent pour Israël. Attendez, monsieur n'a pas fini. Mais on reviendra là-dessus.
Ken. Parce que ce que je voulais demander, c'est est-ce que l'identité séfarade comme l'identité ashkénaze, est-ce que vous les interprétez comme des déviations de la pensée juive à travers l'Occident et à travers l'Islam?
Une petite réponse brève. Je me proposais d'en parler, mais je voulais réserver ça pour la fin s'il reste du temps. C'est que l'identité juive, comme telle, depuis 2000 ans, est une identité seconde, je ne dirais pas déviation, mais une identité seconde, secondarisée par rapport à l'identité hébraïque. Et le fait que l'identité israélienne soit une identité hébraïque n'empêche en rien qu'il y ait une cohérence de l'identité juive comme telle. Mais comme telle, elle est seconde par rapport à l'identité hébraïque d'origine.
Dans la mesure où la rencontre crée confrontation et donc échec de fraternité, c'est peut-être une indication qu'elle véhicule d'autres facteurs d'identité que les états d'identité originelle.
Je ne dirais pas échec, je dirais caducité. Je vais essayer un peu de faire de l'anticipation. C'est-à-dire, un Israélien, je ne fais pas du futurisme, je pense déjà à mes petits-enfants, un Israélien se connaît comme d'origine ashkénaze ou d'origine séfarade, c'est-à-dire d'origine juive. Bon, mais ça, c'est déjà du futurisme, ici. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, si bien, on prendra ça tout à l'heure. Mais je propose qu'on revienne...
Oui, enfin, juste sur les...
ce qui a été dit, là.
Oui. Moi, je crois que je n'ai pas été très, très bien compris, au moins sur deux points. Confrontation et échec, est-ce la confrontation dont j'ai parlé, le choc des cultures dont j'ai parlé, c'est un échec de la fraternité, c'est le contraire que j'ai dit. La confrontation, ça ne veut pas dire la guerre. Ça veut dire qu'on se définit l'un par rapport à l'autre. Tant qu'il n'y a pas les deux, on ne peut pas se définir l'un. Tant que les Ashkénazes vivaient tout seuls dans leur terre chrétienne, et tant que les Séfarades vivaient tout seuls sur les terres islamiques, ils ne se rencontraient pas. S'ils ne se rencontraient pas, ou ils savaient que ça existait.
Oui, mais
ils savaient que ça existait.
C'était mythique.
Mais c'était mythique. Ouais. C'est ça le mythe. Le mythe, c'est qu'on savait que ça existait, que c'était pas... Alors, c'est quand il y a eu rencontre et confrontation, au sens culturel du terme, c'est pas au sens de la guerre, au sens culturel du terme, qu'on découvre sa propre réalité. C'est ensemble, en découvrant la réalité des autres, qu'on découvre sa propre réalité. C'est ça que j'ai voulu dire. Quant à Ashkenaz Sepharad, c'est les déviations de l'identité juive, je pense que c'est le contraire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une identité juive aujourd'hui qui ne serait ni Sepharad ni Ashkenaz? Elle serait rien. Elle serait un résidu.
Yéménite, par exemple.
Je veux dire par là, yéménite entrant dans le complexe général, orientaux, c'est pas vrai. On est d'accord, oui.
Mais il y a des. Y a
on
des
peut limites. Admettre, on peut admettre.
Mais c'est quand même. Oui.
Mais c'est quand même, il plaît. Oui. Ou éthiopien.
Le juge intervient. Oui, je voudrais dire qu'il y a deux groupes de séfarades. Il y a les séfarades d'Orient et les séfarades d'Occident. Les séfarades d'Orient sont ceux qui ont vécu en islam, ce sont donc la grosse majorité des séfarades qui ont vécu au sein de l'islam, mais il y a aussi les séfarades d'Occident, c'est-à-dire les communautés séfarades du sud-ouest de la France, les communautés hollandaises, les communautés portugaises, anglaises, et... algériennes, non. Un petit peu, pour les Lévis provençales, par exemple. Lévis provençales, d'accord. Mais donc il y a vraiment deux mondes, et le monde séfarade occidental correspond aussi un petit peu au niveau de la mentalité au monde ashkénaze en général. Et je voulais ajouter quelque chose, que en histoire, on prend par exemple la communauté de Salonique. La communauté de Salonique, il y a eu de temps à autre des ashkénazes qui en groupe ont été vivre dans le monde séfarade et qui sont devenus des séfarades. Réciproquement, nous avons des juifs séfarades d'Amsterdam, de Hollande, qui ont été en Pologne et qui sont devenus des Ashkénazes.
Voilà. Oui, bon, juste un mot à propos de ce qu'a dit effectivement M. Ashkenazi à plusieurs reprises, à savoir qu'Israël offrait la possibilité d'un dépassement de cette dichotomie. Moi, j'ai dit le contraire. Hein. Pas qu'il a tort, mais j'ai dit le contraire. J'ai dit qu'Israël, c'était précisément le lieu où l'ethnicité s'est produite, qui n'existait pas. C'est-à-dire où l'idée, les deux catégories, les deux communautés se sont représentées comme étant ethniquement différentes.
Et c'est pas contradictoire.
C'est pas contradictoire. Non, mais attendez, je finis. Ça ne veut pas dire qu'idéologiquement, nous ne souhaitons pas, que je ne souhaite pas, moi, l'unité. Nous avons tous une culpabilité. Tous ceux qui écrivent, tous ceux qui disent que c'est différent, que Ashkenaz et Sepharad sont différents, Je l'ai écrit à nombreuses reprises. Pas pour souligner les différences, mais pour dire que ça existe. Mais nous avons une culpabilité. Cette culpabilité, c'est quoi? Cette culpabilité, c'est la peur de détruire la matrice originale du peuple juif. Et nous avons tous, au moment même où on écrit que c'est différent, on a peur de détruire de ce qu'on a envie qu'il soit réuni. Je veux dire par là qu'il a raison de dire, de définir un idéal, et là nous sommes dans l'idéologie. J'ai raison de dire l'analyse, de faire une analyse. L'analyse, c'est les faits. C'est pas l'idéal.
Monsieur, s'il vous plaît.
C'est intéressant, toutes ces considérations. Mais en réalité, moi je suis sûr qu'il y a un problème de mémoire, il y a un problème d'amnésie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si on parle d'Ashkenaz et de Séfarad, c'est pour dire qu'il y a eu l'exil, effectivement, peu importe si c'est Babylone, la Palestine, etc. Et que c'est ça la matrice originale. Et qu'après, bien sûr, il y a des études technologiques comme celles qui sont présentées, psychosociales, etc. Mais en réalité, le vrai problème, c'est comment il y a des fragments de mémoire dans des peuples qui sont. Dont la matrice est le peuple juif, qui s'est dispersé. Et quand vous parlez effectivement des juifs du sud-ouest, par exemple de la France, il n'y a pas besoin d'aller en Hollande, on prend la commune de Bordeaux, elle est à majorité séfarade, mais séfarade occidentale entre guillemets, puisqu'ils ont été chassés par Isabelle la catholique. Bon, ils ont coexisté avec les juifs qui sont venus après, par l'émigration moderne de Russie, de Pologne, etc. Et un multipole extraordinaire. Bon, c'est des juifs. Et après, il y a eu des réfugiés espagnols, etc. Mais en réalité, le sentiment qu'on éprouve quand on a cette manière de poser le problème, les juifs, les Ashkenaz, c'est pas grave. Bon, moi-même, à une certaine époque, je voyais les choses comme ça, parce que j'avais été à un débat, et j'ai vu qu'il y avait des mémoires différentes. Les gens s'explosaient, ils étaient ensemble, ils parlaient des juifs en France aujourd'hui. C'était ça le débat à la moyenne supérieure, il y a 4 ou 5 ans. Le juif aujourd'hui en France, c'était la problématique qui avait été posée. Mais en fait, il y avait des fragments de mémoire qui explosaient dans la façon dont les gens se positionnaient par rapport à ce malaise de la France, les juifs en France aujourd'hui, avec la Shoah, etc. Donc, il y avait une problématique. Et en réalité, on la retrouve un petit peu dans cette façon scientifique, disons, de raconter les choses. Et ça crée un malaise quand même, parce que il y a des identités différentes, on pourrait presque dire chez les juifs, des identités différentes. Mais en réalité, on sait très bien que le fait juif, l'universel, est vécu à l'intérieur par les juifs comme quelque chose qui est de sa mémoire, mais en même temps d'une mémoire perdue. Parce que bon, j'ai comme le sentiment que pour les juifs, quand on parle de ces séparations, ces différences, c'est vraiment un problème du juif de se retrouver ce qu'il a été, mais parce qu'il se sent perdu dans toutes les grilles de lecture qu'on peut donner. Bien sûr, c'est, en fait, par rapport aux antisémites, de dire que les juifs appartiennent à des myriades d'univers culturels, et que c'est faux de dire qu'il y a entre guillemets les juifs, qu'il y a l'unité comme ça. C'est vrai qu'il y a une solidarité entre tous ces êtres, ces existants qui sont dispersés dans des univers culturels extraordinaires. Alors, il y en a qui ont tendance à se déjudaïser, c'est vrai. C'est le vrai problème, se déjudaïser. À cause de l'exil, ils commencent à se retrouver au-delà de ces. Toutes ces facettes qu'il y a, qui font que bon, en fait, on dit les escalades, c'est pas grave. C'est sûrement plus complexe que ça, d'une certaine façon. C'est sûrement plus complexe. Je crois comme ça, sans dire les choses. Alors, si vous, il n'est pas obligatoire de poser une question. La question est dans la manière de sentir ce malaise par rapport à cette façon de dire les escalades, c'est pas grave. J'ai même eu une fois dans un journal israélien que paraît-il, le problème d'avenir, c'est pas tellement les juifs et les arabes. C'est la coexistence de ces deux univers, Séfarad et Ashkenaz, qui a un fossé, paraît-il, extraordinaire. Et moi, je me demande, est-ce que c'est un vrai problème ou un faux problème? C'est l'intérêt de la manière dont on a parlé à cette question. Il y a des fantasmes et il y a des réalités. Bon, alors, c'est à nous de vous positionner par rapport à ça.
Juste une phrase, parce que vous venez de dire quelque chose d'assez important. Au niveau de la réalité, c'est un problème. Mais s'il est tellement en acuité, je ne sais pas comment on dit, en Israël, c'est parce qu'Israël est une société juive. Alors que par exemple, pourtant je ne dis pas de calomnie, par exemple en France, la société est française. Et les juifs sont à l'abri du fait social français. Et les affrontements sont entre français et pas entre juifs. En Israël, les affrontements sociaux étant entre juifs, cela fait apparaître l'acuité du problème. Mais vous savez, si on transpose dans des, comment dire, dans d'autres registres, les affrontements entre comités juifs en France sont aussi violents qu'entre syndicats ouvriers en Israël. Vous comprenez ?
Madame, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais poser une question. Vous avez fait des enquêtes. Est-ce que vous avez posé comme question aux gens s'ils souhaitaient maintenir l'identité proprement ashkénaze ou l'identité proprement séfarade ? Parce que les juifs, par exemple, si vous leur posez la question, ils vont vous répondre « Oui, nous souhaitons, par exemple, maintenir l'identité juive. » Mais cette différence-là à l'intérieur du peuple juif, est-ce que les gens expriment le souhait de continuer ?
Non seulement personnellement j'ai jamais posé cette question, mais je crois qu'elle a jamais été posée, enfin à ma connaissance, il y a des choses que je ne connais pas, mais à ma connaissance, parce que précisément personne ne pense qu'il faut maintenir une division. Je viens d'expliquer tout à l'heure que ce qu'on ressentait plutôt quand on analysait les différences, voire même les antagonismes tels qu'ils existent, quelquefois ils sont aigus dans certains lieux, dans certains micro-milieux ou dans certaines sociétés, on éprouvait une culpabilité. Cette culpabilité, c'est de dire, c'est cette peur inconsciente de détruire la matrice originelle. C'est au sens très fort du terme. C'est au sens psychanalytique. C'est-à-dire détruire ce qui nous a donné la vie, à savoir l'identité originelle. Et je pense que cette peur fait que... Mais quand je dis peur, je dis au niveau inconscient. Je veux dire par là que, par ailleurs, Manitou a tout à fait raison de dire qu'en Israël, c'est une société juive, et donc les chocs politiques peuvent quelquefois épouser les formes de cette division-là, Ashkenaz Sepharad. Mais c'est pas malsain, ça, qu'éventuellement il y ait superposition de clivages politiques, religieux, etc. Ça, c'est normal, c'est une société normale. Alors, on va demander aux gens s'ils veulent continuer une division. Je vois personne poser cette question, et je vois personne y répondre. Oui, c'est très bon qu'il y ait une division Sepharad Ashkenaz.
Vous posez uniquement négativement, ni les divisions, c'est également différent.
Oui.
Oui. Oui, monsieur, s'il vous plaît.
Je vous ai dit qu'on n'a pas donné suffisamment de surface pour le problème Ashkenaz. On a parlé trop sur le problème Sepharad.
Oui.
Pratiquement, le problème Ashkenaz se pose en deux endroits dans l'univers, en France et en Israël. Et nulle part ailleurs. Et en France, le problème est moyenne importance, parce qu'il y a 55 millions de Français, et 300 000 espénateurs, ça ne joue pas terriblement. En Israël, il est moitié, le problème est réel. Mais est-ce que le problème réel de là-bas permet de tirer des conclusions générales? Moi, je dis non. Je refuse le problème tel qu'on a aujourd'hui. Déjà, on n'a pas présenté le problème Ashkenaz tel qu'il est. Il n'y a pas un Ashkenaz. Un problème à chaque Ashkenaz, il y a plusieurs. Si je parle seulement les juifs, plus qu'ils sont 3 millions de juifs plus, et il y a 6 millions à New York, le problème déjà se pose tout à fait un autre point.
Non, aux États-Unis, c'est mieux.
États-Unis. C'est-à-dire qu'on a esquivé un petit peu la face réelle, la face psychologique réelle des Ashkenaz, qui n'est pas si simple que ça. On ne peut pas, dans une phrase, ou deux ou cinq, représenter les Ashkenaz. Ashkenaz, il y a l'Europe centrale, qui malheureusement n'existe pas beaucoup, mais pour tradition, comme héritage, il n'y a pas les grands. Et la tradition Ashkenaz de l'Europe centrale, c'est en mentalité, une spécificité, tout à fait en part, un lien à faire avec la mentalité polonaise ou russe. C'est une autre chose. La mentalité séparate, moi je m'en ai relativement peu, etc. Mais, encore que j'attire l'attention, le séparat, ça ne veut rien dire. La séparat Afrique du Nord, et séparat Turquie, Bulgarie, Istanbul, c'est tout à fait différent, c'est pas la même chose. C'est nettement différent pour mentalité, pour tenue morale, c'est tout à fait ici. Donc, vous avez séparat Afrique du Nord,
Oui, peut-être, oui. Mais oui. C'est Tapia, s'il vous plaît.
Oui, bon, non,
c'est
je crois
Tapia
que...
Tapia répondra.
Oui. Avis, bon, mais c'est...
En ce qui est d'Ashkenaz, le problème d'Ashkenaz, ça commence à partir du 13e, 14e siècle, quand les Juifs commencent à venir en contact avec la culture européenne profondément et être en soi formé une mentalité psychologique et culturelle à part. Qui arrive jusqu'à le 20e siècle avec des situations de culture viennoise, berlinoise, hongroise, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que
Herzl
et Nordau et Tivada sont de là-bas et tout le futur.
Sont deux séparés d'ailleurs, Herzl et Nordau.
Oui. Bon, alors je crois que votre question est tout à fait pertinente. On n'a pas traité des différences à l'intérieur des branches. Le problème n'était pas, c'était pas ce qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé d'essayer de réfléchir sur ce thème, sur ce problème. Les mentalités séfarades et mentalités ashkénazes, mythe ou réalité. J'ai pas encore répondu d'ailleurs à la dernière question, mythe ou réalité, je vais peut-être le dire après. On n'a pas dit, j'ai laissé entendre que c'est par un effort d'extrapolation qu'on essaye de définir deux zones générales de sensibilité et de culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur. Moi-même, je suis l'auteur d'un article sur les Juifs du Levant et les Juifs du Maghreb. Je veux dire, à l'intérieur de ce qu'on peut appeler l'univers séfarade, par extension. En réalité, vous avez tout à fait raison, il y a en réalité dans le monde séfarade au moins trois grandes tendances. Vous avez effectivement, si on recorde, et je dirais même à l'intérieur du Maghreb. Voilà, certains font des analyses à l'intérieur du Maghreb, entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Alors, on n'a pas fait cette analyse-là. À l'intérieur du monde ashkénaze, il y a aussi des différences. Alors, on n'a pas fait aujourd'hui cette analyse-là. Elle mérite sans doute d'être faite. Mais c'est pas ça notre tentative. Je crois qu'il aurait fallu, pour pouvoir discuter de ce que nous avons dit, vous situer sur le registre dans lequel nous nous sommes placés. C'est, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui subsument, qui recouvrent des différences à l'intérieur de chaque branche. C'est ça qu'on a essayé de faire. Si un autre jour on me demande d'analyser les différences à l'intérieur de chacune des cultures, alors c'est un autre problème. Ça consisterait à mettre en évidence des différences et des clivages à l'intérieur de ces deux ensembles.
Oui, madame, s'il vous plaît.
J'ai envisagé trois voies de dépassement, là, l'orthodoxe, la laïque et puis l'articulation. J'ai oublié qu'il y avait aussi, la voie biologique. Hein, c'est-à-dire. C'est sans doute la meilleure.
Oui, combien de. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question avant de lever la séance? Oui,
madame.
Si je peux me permettre une phrase, en tant qu'éducateur israélien, il n'y a pas de différence, aucune différence. L'impact de la Shoah, en fin de compte, a touché tous les Juifs à des niveaux différents, mais de la même manière. Nous avons même, en Israël, on utilise ça au niveau de la population étudiantine, des petits-enfants de Sfarad du temps de la Shoah qui sont malades de la diaspora, qui sont malades de la Shoah, qui n'ont pas vécu dans leur famille. Ça s'est globalisé. Ça, je le dis en passant. En tout cas, je voudrais simplement pour terminer revenir à votre dernière phrase. Je l'avais notée pour la fin. C'est les trois voies que vous avez indiquées. Et là, vous m'avez ouvert une porte de perplexité supplémentaire. Enfin, non, je veux dire des questions à poser. La voie orthodoxe. Comment un sociologue ou un psychosociologue pourrait expliquer le fait que les Sfaradim qui choisissent la voie orthodoxe, choisissent la voie orthodoxe Ashkenaz et pas Sfaradim? Et puis, la voie laïque, c'est la même chose. Et puis, la voie des mariages mixtes, bon. Moi, je les appelle mariages mixtes parce que quand on a vécu un mariage Ashkenaz-Sfarad, on sait vraiment que c'est mixte. D'ailleurs, tout mariage est mixte. Je vous dirai, la question de mademoiselle tout à l'heure. Je vous racontais une légende. Quand nous étions fiancés, nous avions un problème sérieux. Comment chanter aux enfants en yiddish ou en judo arabe? Et c'est un vrai problème. Enfin, c'est pas la même chose, tout simplement. Alors, finalement, on a décidé de leur chanter en hébreu. Mais, c'est pas de la propagande. Mais il n'en reste pas moins qu'elles leur chantaient en yiddish et que je leur chantais en judéo-arabe. Mais en plus. Et alors, voilà, c'est une question que je pose.
Je voudrais vous poser simplement une question. Est-ce qu'il y a une orthodoxie qui... Est-ce qu'il y a une orthodoxie séparée?
Oui. Oui, elle est pas orthodoxe dans le sens négatif qu'on met maintenant dans ce mot. Par exemple, moi, j'essaye. Vous savez, un sfarad, non, c'est pas dire qu'il...
C'est pas une idéologie.
Non, c'est pas une idéologie, c'est un comportement. Et un sfarad, enfin un orthodoxe normal, même Ashkenaz, il y a des normaux. C'est indécent de se dénommer orthodoxe. Vous savez, étymologiquement, ça veut dire celui qui suit la voie droite. J'allais le dire en arabe. Qui va pouvoir dire de lui qui suit la voie droite? Vous avez compris ce que je veux dire? Mais enfin, on essaye, c'est un idéal. Mais aujourd'hui, malheureusement, je voudrais déjà dire intégriste. Mais il n'y a jamais eu d'intégrisme sfarad, même pas dans le ghetto de Marrakech.
Oui, s'il vous plaît, donc, on est obligé de conclure maintenant. Et je voudrais donc remercier très vivement Monsieur Claude Tapia et Monsieur Richard Ayoub pour son introduction, et vous donner rendez-vous pour demain où Monsieur David Mendelssohn abordera précisément le problème de la rencontre intellectuelle d'Ashkenaz et Sepharad au moment de la création de l'Ishuv en Eretz Israël. Merci beaucoup.